I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Acast powers the world's best podcasts. Here's a show that we recommend.
I'm Ina Garten. Welcome to Be My Guest, the podcast. One of the best gifts you can give friends is spending time together. But what's even better than that? Cooking with them. On Be My Guest, the podcast, new friends and old stop by my barn for some conversation and great cooking. We talk about food, life, and everything in between. Listen to Be My Guest, the podcast with me, Ina Garten, and join us wherever you get your podcasts.
Acast helps creators launch, grow, and monetize their podcasts everywhere. Acast.com.
Louis. Je ne sais pas vous, mais autour de moi, les élections présidentielles ont créé beaucoup de débats, mais aussi de non-dits. Ces discussions ont abîmé certaines relations amoureuses ou filiales, et j'imagine bien comment elles ont pu mettre un terme à certaines amitiés. Entre ceux qui ne votaient pas et avaient le sentiment de devoir se justifier, ceux dont les votes ne s'accordaient pas. Alors justement, dans Passage, on se disait qu'on avait envie de vous faire découvrir, ou redécouvrir, une histoire qui questionne la possibilité de s'entendre, de s'aimer, quand on ne partage pas les mêmes opinions.
Il y a plus d'un an, lors d'un apéro Louis, Maud Benakcha, journaliste de L'Équipe, nous a parlé d'une de ses amies, Camille. Maud s'interrogeait sur sa relation avec Camille qu'elle fréquentait depuis des années. Elle découvrait des failles dans ce qu'elle pensait être leur conviction commune. Nous nous sommes toutes assises près de Maud pour entendre cette histoire, et à la fin, on s'est dit « voilà un épisode ». Il est donc signé Maud Benakcha. Bienvenue dans Passage.
Quand j'ai rencontré Camille, il y a 10 ans, c'était une fille discrète. Elle disait pas grand-chose, mais j'ai pris conscience de sa gouaille quand j'ai rencontré sa famille. Ils habitaient dans un grand appartement et ils incarnaient à mes yeux la famille de gauche et parisienne. Ils avaient des grands débats, poussaient des gueulantes dans cet appartement qui était plein de tapis, de livres et d'épices. Et puis ils me parlaient de choses qui m'étaient inconnues. Ils me parlaient de chefs, de restaurants étoilés, d'herbes, de mélanges de saveurs. Le mélange d'épices le rasait la noute, allait savoir pourquoi dans mes souvenirs, c'est eux. Et ce qui me revient en tête lorsque je repense aux soirées que j'ai passées dans leur cuisine, c'est vraiment la chaleur, l'accueil et l'ouverture d'esprit. En fait, chez eux, je me sentais bien. Après la sortie du lycée, on se voit quelques fois dans l'année avec Camille. Notre amitié n'est pas quotidienne, mais elle est constante. Jusqu'au jour où, il y a à peu près 2 ans et demi, on se retrouve un été, dans un restaurant pour le déjeuner, et elle me parle d'un choix qu'elle a fait. Là, d'un coup, ça remet les compteurs à zéro. En fait, elle a pris une décision qui me semble être à l'opposé de l'image que j'ai d'elle et à l'opposé de mes valeurs. Presque un choix qui me remettra en question moi-même, dans mon identité en tant que jeune femme, de gauche, féministe, et avec Benakcha en nom de famille. J'ai beaucoup réfléchi à son positionnement. Je me suis demandé à quel point il était possible de distinguer nos idées de nos actes, à quel point certaines décisions peuvent en fait révéler une naïveté, un privilège même, celui de pouvoir croire que des idées ne sont que des idées et que ça n'a pas d'impact sur la réalité. J'ai pensé à couper les ponts, mais cette amitié durait depuis trop longtemps pour tout arrêter aussi sèchement. Alors dans cet épisode, j'ai essayé de comprendre pourquoi Camille avait fait ce choix. «
En avril 2016, j'ai 23 ans, je suis tout juste diplômée de l'école de cuisine et je rentre dans un des plus beaux palaces parisiens. C'est le berceau de la cuisine française. Pour moi, c'est là où un cuisinier doit travailler, en fait. Une personne vient me former, c'est Mickaël. Il a l'air très bienveillant, plutôt timide. Il va m'apprendre sans me crier dessus, sans me mettre la pression. Donc je me dis, c'est tout ce que je veux, c'est tout ce qu'il me faut pour le moment, donc c'est très bien.
La première fois où j'ai vu Camille dans les couloirs, je ne suis pas allé lui parler, je n'ai pas osé, tout simplement. Je ne suis pas d'un caractère très entreprenant, et c'est vrai qu'on se croisait juste, de toute façon, on est au travail, on a la pression, on n'a pas vraiment le temps de s'arrêter. Ce n'était pas évident du tout pour moi d'aller la voir et de l'interpeller, donc je l'ai juste vue, et ça s'est arrêté là.
Une semaine après mon arrivée à la brasserie, je suis super épanouie, hyper intégrée dans l'équipe, tout se passe super bien, je suis aux anges. Et quelques jours après, j'apprends une très mauvaise nouvelle. En fait, ma meilleure amie, Laura, j'apprends qu'elle est atteinte d'une leucémie. Et un mois et demi plus tard, en fait, elle décède subitement. Après son décès, j'ai envie de changer d'air. Donc, je décide de partir. Je sais la destination, j'ai envie de partir au Canada. Je fais très vite des recherches pour un permis de vacances-travail, j'en ai entendu parler, sauf que la période ne concorde pas. En fait, je ne peux pas y accéder pour cette année-là, mais je sais que l'année prochaine, ce sera mon tour et je ferai les démarches à ce moment-là.
On est 2 mois après l'arrivée de Camille à la brasserie. Elle part au bistrot, elle suit... son travail était... plaisait à tout le monde. Du coup, une personne a eu un poste intéressant au bistrot. Il a pris Camille avec lui. Du coup, on se voit encore moins juste quand elle vient et qu'elle dit bonjour. Et par contre, on a une activité qui est entre nous deux. C'est-à-dire qu'on a un tea time l'après-midi et que ces petits canapés passent au bistrot le soir pour être vendus. Et du coup, c'est un peu mon idée, c'est de me servir de ça pour créer un espèce de lien avec Camille, au moins une discussion régulière. Et du coup, je lui demande tous les jours combien est-ce qu'elle en a vendu, jusqu'au jour où je lui demande est-ce que je pourrais me faire un petit papier chaque soir en partant pour que moi, le matin, je sache si tu en vends beaucoup pour que je puisse ajuster ce que j'aurais à faire le lendemain matin. Un matin, mi-novembre, je lis son papier. Et du coup, j'ai le nombre de chacun de ces canapés qui a été vendu. C'est pas énorme. Et à la fin, il y a une... signature, enfin moi j'ai jamais cru que c'était une signature, enfin en tout cas j'ai jamais lu comme étant une signature, ça ressemble à un cœur. Et à ce moment-là je comprends vraiment pas. Bien sûr c'est ce que j'aurais aimé lire, mais ça me paraît bizarre en fait, je me dis mais c'est à la vue de tout le monde, c'est un petit papier qui est sur mon plan de travail que tout le monde pourrait voir. Forcément je vais me poser des questions, est-ce qu'il est en train de se passer quelque chose ou pas, j'en suis vraiment pas sûr. Du coup je vais quand même prendre les devants en quelque sorte, enfin en tout cas essayer d'initier quelque chose et je lui ai proposé qu'on se voit en dehors du travail pour une fin d'après-midi.
On est installé à la terrasse du Pierrot, il fait plutôt bon et je suis complètement détendue. Il apparaît un peu comme un petit rayon de soleil dans ma vie qui est assez noir. La conversation commence autour... d'un fameux sujet qui est le travail. Très réjouissant. On en discute en tout cas avec beaucoup de légèreté, d'humour. C'est pas du tout barbant. Il commence à me parler de sa vie privée. C'est très naturel. Je l'écoute beaucoup. Je lui pose un peu plus de questions, mais moi, je reste complètement muette face à ce qui se passe dans ma vie. Donc, je lui dis que je fais du sport, que ça m'arrive de courir. Mais pour moi, c'est épisodique. Mais lui réagit tout de suite en me disant « Ah oui, tu cours ?»« Oui, je cours, enfin, ça m'arrive. » Et là, il me dit « Ah, mais moi, je fais des parcours sportifs. » D'accord, très bien. Et là, sans prendre de pincettes, le sujet va très vite. Il me dit « Ah, mais je vais au Bois de Boulogne, je vais courir avec des royalistes. » Et là, je me dis, dans quoi je m'embarque ? Et je visualise pas, vraiment, je visualise pas la portée de de cette réflexion. Et puis là, je le sens, je sens qu'il n'a pas fini sa phrase. Il n'y a pas eu un point après. Je vais courir avec des royalistes.
Je lui annonce que je cours avec des jeunes de mon âge, des jeunes qui sont militants au sein du FNJ, au sein de l'Action française aussi. Au sein du FNJ, c'est des gens que j'ai rencontrés en militant, enfin, en allant à des conférences. Et ceux de l'Action française, c'est des gens que j'ai rencontrés durant les manifs pour tous. À force de se revoir tous les week-ends ou toutes les 2-3 semaines en faisant du sport, bah oui, ça devient des très bons amis. Donc à ce moment-là, bah, je lui explique ça et je lui propose justement de venir, si jamais elle veut faire du sport, de venir en faire avec moi, donc avec nous, par conséquence.
Et là, c'est le drame. Cet acronyme-là, il me parle directement. C'est-à-dire que là, je ne me dis pas « FNJ, ça veut dire quelque chose d'autre ». Ça représente la jeunesse du Front National. Et là, je suis complètement perdue. Je suis choquée par l'annonce. Je suis choquée et la colère vient ensuite. Mon monde, il s'écroule parce que c'est une annonce qui est insupportable. Qui est insupportable parce que il m'a proposé de venir courir avec lui. Il a pensé que j'avais les mêmes valeurs que lui. Il a rien compris en fait. Il a rien compris. Il n'a pas compris qui j'étais. Il m'a assimilée à ces jeunes-là. Il a voulu que j'en fasse partie. Non, en fait, c'est pas possible.
Mais j'essaie de relancer des conversations parce que je veux pas que ce rendez-vous se termine sur une, non pas sur une dispute, mais en tout cas sur une mauvaise note. Et à ce moment-là, Camille a réagi. Bah, réagit plus au final. Elle se renferme sur elle-même. Chacune des conversations que je vais lancer, ce sera une réponse très laconique. Un oui, un non, un hochement de tête, parfois, mais j'obtiens rien de plus à ce moment-là. Je décide de payer. D'une part pour faire gentleman et pour lui offrir un verre, puis d'autre part un peu aussi pour m'excuser pour ce moment très très gênant que je lui ai procuré. Parce qu'à ce moment-là, je me sens mal, en fait. Je me sens gêné. Parce que je l'ai gêné, ce que je ressens. Pas forcément énervé parce que je m'en veux de lui avoir fait cette proposition, mais en même temps, c'était quelque chose de très naturel. J'y voyais rien de malaisant quand je lui ai fait cette proposition. Donc, là, je suis un peu perturbé, en effet. Je m'en veux. Je lui en veux un petit peu quand même de réagir comme ça. Enfin, c'est la première fois pour moi qu'une personne face à ce qu'ils ont pas encore, enfin, ce que je définis pas encore auprès d'elle comme étant mes idées, mais face à mes fréquentations, qu'une personne se dise, ouais. Juste me juge par rapport à ça et au-delà de me juger, me mettre de côté en quelque sorte. C'est-à-dire qu'elle pourrait me juger et avoir un débat, mais là, pour le coup, c'est pas le cas. Elle me juge, elle m'impose une fin de non-recevoir et derrière, il n'y a plus rien, il n'y a plus de discussion, il n'y a plus rien qui ressort de ce moment-là, en fait.
Ça me touche autant qu'il ait fait cette proposition parce que je suis quelqu'un de profondément ouverte aux gens qui me sont proches, ouverte aux gens que je ne connais pas, qui n'ont pas la même religion que moi, qui n'ont pas la même couleur de peau que moi. Et j'ai un entourage qui me ressemble énormément, qui vote à gauche. Et puis j'ai aussi mes parents qui m'ont apporté leur passé, leurs histoires, avec une partie de ma famille qui était résistante. Donc mes idées politiques, par contre, elles sont... à l'image d'une petite graine, elles sont là, tout est disséminé, mais j'ai pas encore tous les arguments pour les développer. Mais je sais qui je suis. Je ne vote pas FN et je ne voterai jamais FN.
Le soir, du coup, je lui renvoie un message pour m'excuser un peu de la situation qu'on vient de vivre. Quand elle me répond, c'est assez radical. Elle évacue le problème. En même temps, j'ai l'impression qu'elle m'évacue moi aussi. J'ai l'impression qu'il n'y a plus de suite à donner. C'est vraiment par politesse, on va encore avoir à travailler ensemble. Donc c'est bon, il n'y a pas de souci. Salut, au revoir. Durant les mois qui vont suivre, la fameuse soirée au Pierrot, avec Camille, notre relation, c'est juste une relation professionnelle. C'est bonjour. Pas au revoir parce que je suis du matin, elle est du soir. Du coup, on se recroise pas, on se dit juste bonjour. Éventuellement, si on peut parler de travail, on en parle, mais en général, il n'y a pas grand-chose qui motive ce genre de conversation. Après quelques mois, Camille bosse du soir, je bosse du matin. Et du coup, tous les jours, je sais qu'elle part manger à 17h à la cantine. Et à chaque fois, à ce moment-là, on se croise. Et au fur et à mesure, on recommence à discuter un petit peu, bon, du boulot essentiellement. Et un jour, elle commence à me parler de sa situation à elle et à me dire qu'elle est sur le départ, qu'elle a envie de partir. Bon, j'ai pas grand-chose à proposer, mais je lui demande qu'est-ce qui pourrait t'intéresser parmi tous les points de vente qu'il y a dans ce palace, te persuader en tout cas de faire rester.
Moi, mes options, elles étaient quand même très restreintes. Je voulais pas aller au gastro, retourner au gastro. Je voulais pas aller à la brasserie, je voulais pas y retourner. Le banquet, ça m'intéressait moyen. Et la seule option qui me restait, c'était le petit-déj. Et donc, du coup, je lui ai dit, ce serait bien que j'aille au petit-déjeuner. C'est le seul truc que j'avais pas fait, mais vraiment, c'était sans conviction. C'était vraiment pour lui donner ce qu'il voulait, quoi, et pour qu'il me laisse tranquille, pour que la conversation s'arrête.
Deux jours après, il y a le chef de la brasserie qui vient me voir et qui me dit « j'ai un souci avec le planning, ça se passe mal au petit déjeuner, j'ai une personne qui ne fait pas l'affaire, qu'il faut que je mette ailleurs. » Et il me dit, sans savoir que moi j'ai une idée derrière la tête, il me dit « si c'est une personne qui peut me sauver, je t'offre deux bières. » Et du coup, à ce moment-là, je réfléchis pas longtemps, j'ai la personne sous la main, j'ai une personne qui demande que ça, donc voilà. Je propose Camille et Camille passe au petit déjeuner.
D'où tu te permets de prendre l'initiative pareille. Donc là, je l'ai un peu mal pris. Et puis, j'ai réfléchi. Et finalement, j'y vais à ce petit déjeuner-là. J'y vais un peu sans grand enthousiasme. Et finalement, c'est une très, très bonne surprise. Je suis très vite à l'aise avec eux. Je suis avec un chef qui est incroyable. Et l'aventure, elle redémarre là, quoi. Donc, ça me fait du bien. Ça me fait vraiment beaucoup de bien.
C'est peut-être la solution pour réussir à garder Camille au sein de l'hôtel. Donc, pour pouvoir continuer à la voir régulièrement. Donc à ce moment-là, je suis quand même très satisfait de mon idée.
Quand j'arrive au poste du petit déjeuner, en fait, Mickaël, il vient dire bonjour tous les matins à l'équipe du petit déjeuner. Donc en fait, on se reparle. Donc l'ambiance est vraiment très très agréable le matin. On se voit 5 minutes, mais ces 5 minutes qui me font, moi, beaucoup de bien. Je le vois très souriant et on s'envoie toujours quelques petites vannes à travers la figure alors qu'il est 7h du matin. C'est toujours une belle journée qui commence à chaque fois que je le vois. En octobre 2017, on se rapproche énormément, si bien que le sujet politique arrive quand même très vite sur la table. Mais on en parle de façon plutôt légère, sur le ton de l'humour, avec beaucoup, beaucoup de blagues. Et vient le moment où il me fait ses excuses quant à la proposition qu'il m'avait faite de courir avec lui et ses amis au bois de Boulogne. Je les attendais pas forcément, mais je les prends, je les accepte parce que il a été maladroit, il le reconnaît, il m'a pris pour quelqu'un que j'étais pas, et ça me fait du bien de l'entendre. Maintenant, la balle, elle est au centre. On est sur un terrain maintenant qui m'appartient et mes règles, elles sont miennes. En novembre 2017, j'ai été prise pour mon PVT, donc mon permis vacances-travail pour le Canada. Ça s'est fait hyper rapidement. C'est fou parce que c'est un choix qui a été quand même mûrement réfléchi, mais ça arrive super vite et j'en reviens pas. Et je me dis, c'est génial, dans pas longtemps, je vais pouvoir partir. Il n'y a pas un mois et une date qui sont arrêtées. Je me dis, été, courant septembre, voilà. Dans ces eaux-là.
Quand elle me l'annonce, je suis assez triste, en fait. On recommence à ce moment-là à avoir une vraie bonne relation. On est bons amis. Notre relation se passe beaucoup mieux qu'un an avant. Et quand elle m'annonce ça, oui, je suis assez triste. Et j'ai un peu l'idée d'un minuteur qui vient de se mettre au-dessus de ma tête. C'est une espèce de compte à rebours où je me dis va falloir que je me dépêche de trouver le courage de lancer quelque chose, d'avancer un peu dans sa direction, parce que sinon, je vais me faire avoir par le temps et elle partira avant que j'aie tenté quoi que ce soit.
En février 2018, donc ça fait plusieurs mois qu'on se parle tous les deux, que notre relation s'est intensifiée. Et là, j'arrive au poste des cuissons à la brasserie et en fait, j'apprends que je vais travailler avec lui. Enfin, on va travailler sur le même poste, mais pas en même temps. Je suis hyper excitée. Je me rends compte que on est très, 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 très proches. On est très, très complices. On passe beaucoup, beaucoup de temps ensemble. Je me dis, c'est bizarre quand même.
Mercredi 7 mars, du coup, c'est une soirée Top Chef où elle vient à la maison, on se fait à manger, donc on mange très bien. Et on regarde Top Chef en chamaillant beaucoup et en discutant beaucoup. Et à chaque fois, c'est des soirées qui finissent quand même relativement tard. Et plus ça va, plus ça finit tard. Et du coup, c'est vrai que ce jour-là, bon, je sens qu'on on se voit au quotidien. De toute façon, en dehors du boulot, on se voit tous les jours. Donc, c'est pas possible qu'il se passe rien entre nous deux. Et ce soir-là, je me dis, on va tenter un coup. Puis je scrute l'heure toute la soirée. Puis je me dis, peut-être que si ça se finit plus tard que le dernier métro et le dernier tramway, il y a peut-être moyen qu'il reste à la maison. Et du coup, minuit et quart passe, minuit 25, là, c'est plus possible. De toute façon, elle ne peut plus repartir. Il y a plus ce qu'il faut pour repartir. Pour une fois, je trouve le courage de tenter quelque chose et je lui dis, je vois qu'il est tard. Si tu veux, tu peux rester dormir. Elle accepte. Même s'il ne se passera rien, ça peut paraître idiot, mais juste le fait de savoir qu'on va passer la nuit ensemble, en fait, on va passer encore plus de temps ensemble. Et plus on passe du temps ensemble, mieux c'est pour tous les deux. Et du coup, on dort ensemble. Le matin, au réveil, le réveil pique parce qu'il est, moins de 6 heures, il est 5h40 quand le réveil sonne. Mais malgré tout, ça se passe. C'est agréable. On est l'un avec l'autre. On discute encore dès le matin, on chamaille. Je pars un peu plus tard que d'habitude au boulot, mais bon, j'arrive toujours avec une heure d'avance, donc ça posera pas de problème pour une fois. Et le lendemain, elle revient, et là, c'est elle qui met les pieds dans le plat et qui dit qu'il faut qu'on discute un peu plus sérieusement et qu'il y a beaucoup de choses qu'il faut qu'on mette au clair. Quand elle me dit qu'il faut qu'on aborde notre relation, je lui dis clairement plus, mais pas moins. C'est-à-dire que je veux que cette relation avance. Peu importe où ça nous mènera, mais voilà, aujourd'hui, on est à un moment où, peu importe ce qu'on va se dire ce soir, je veux plus moins que ce qu'on a aujourd'hui. Je veux plus que cette relation recule. Se voir autant de fois aussi longtemps, c'est devenu genre quelque chose d'hyper addictif en fait pour moi, quoi.
Une semaine après, je lui dis oui. Je veux aller plus loin. Je veux aller plus loin avec toi. Il réagit de façon ultra, ultra positive. Bon, on est très proches, on est tout collés, on se prend dans les bras, on s'embrasse enfin. Et je savais que j'avais pas pris la mauvaise décision. 10 jours après, on couche ensemble pour la première fois. Le lendemain matin, je me réveille, je suis hyper bien. Je pète la forme. On n'a pas beaucoup dormi, mais je me sens revigorée, je me sens renaître. Je suis super contente.
J'ai l'impression de marcher sur l'eau et je suis absolument pas stressée. Je pense qu'il peut rien m'arriver. Je sais pas, je pourrais pas trop le décrire, mais je me sens inatteignable. Je marche sur l'eau, quoi.
Je culpabilise pas, j'ai pas de sentiment de honte parce que même si on s'est unis, on n'a pas fusionné pour autant. J'ai pas pris ses idées, il a pas pris les miennes. On a partagé un moment. C'est toujours très clair dans ma tête ce que je pense et lui dans la sienne aussi. Donc, on s'est unis sur notre amour, mais pas sur la politique. Quelques jours après, la question du Canada me revient en tête. Je me dis que mon départ va toujours avoir lieu. Je sais pas quand, je sais pas à quel moment, mais en tout cas, malgré notre relation qui commence, je sais que je vais partir.
Pour moi, c'est évident que j'ai envie de partir avec elle. Enfin, comme je lui avais dit au début de notre relation, je voulais plus, certes, mais surtout, je voulais pas moins. Et du coup, le Canada, ça équivaut à ça, en fait. Si elle part au Canada, mais que j'y vais pas, forcément, j'ai moins. Je la vois plus, on s'appelle beaucoup moins. Enfin, on pourra plus discuter, on aura le décalage horaire et tout. Donc, pour moi, c'est une évidence. Si j'ai le droit à plus, et que de toute façon, je veux pas moins, forcément, je dois partir avec elle.
Début avril, nous sommes dans la rue avec Mickaël, on se balade, et là, il m'annonce, sur un ton plutôt très léger, alors que c'est quand même une grande nouvelle, il me dit « je vais venir avec toi au Canada ». Je m'y attendais vraiment pas, et je me dis « mais c'est une super bonne nouvelle, on va continuer notre chemin ensemble ». C'est vrai que ça peut paraître un peu fou qu'on prenne cette décision-là de partir tous les deux après un mois de relation, et de partir dans quelques mois... Ça peut paraître un peu cinglé, ça l'est, mais en fait, on ne l'a pas du tout mesuré. On a cette opportunité-là de partir. Faisons-le. Qu'est-ce qui nous en empêche ? On est amoureux, c'est un super beau projet. Allons-y, vraiment. Il n'y a pas d'obstacle. On est en septembre 2018, quelques jours avant notre départ. Mickaël et mes parents se sont déjà vus plusieurs fois à la maison sans que l'officialisation de notre relation soit faite. C'était tacite, voilà, c'est... Ils le savaient parce que, bon, voilà, ils passaient beaucoup de temps à la maison, qu'on était très proches. J'avais jamais dit clairement « Mickaël, c'est mon copain et on est ensemble ». Ce qui fait que il n'y a pas de débat autour du fait qu'il vote FN. Ma maman le sait parce que je lui ai dit à la suite du café au Pierrot où Mickaël m'a fait cette annonce. Et je sais qu'elle l'a dit par la suite à mon papa. Donc je sais que tous les deux sont au courant que Mickaël vote FN. Puis voilà, pour moi, c'était mon affaire maintenant. C'était plus la leur. Quelques jours avant de partir, ma maman me fait cette remarque en me disant « Je comprends pas pourquoi tu sors avec un mec comme ça, sous-entendu un mec qui vote FN. » Je suis un peu choquée qu'elle me dise ça comme ça alors que je vais partir pour un an loin de la maison. Si ça l'a turlupinée tellement, pourquoi elle m'en a pas parlé plus tôt ? Là, c'est... Faut la convaincre super vite du choix que je fais de partir avec lui. J'ai pas envie de partir en mauvais termes aussi loin de la maison pour aussi longtemps. C'est assez compliqué. Là, je suis un peu... Je sais pas trop quelle réaction avoir. C'est assez compliqué. Je laisse la soirée s'écouler et la nuit portera conseil pour peut-être en reparler le lendemain et en parler à tête reposée parce que là, il est trop tard. Je comprends sa position parce que elle m'a élevée comme ça. Je sais qu'elle a ces valeurs-là que j'ai aussi, qu'elle m'a inculquées. Et je veux qu'elle comprenne aussi la mienne. Je veux qu'elle comprenne aussi ma position qui est d'accepter ma relation avec lui. Et que le fait qu'il vote FN ne fait pas de moi quelqu'un qui vote FN aussi. Et que je ne suis pas complice de son vote. J'aimerais voilà, qu'elle comprenne que je l'aime avant tout. Que c'est une histoire d'amour, qu'il y a quelques années, on m'aurait dit « Tu vas tomber amoureuse de quelqu'un qui vote FN ». J'aurais dit « Pas possible. T'as vu ce que je suis, t'as vu ce que je pense. Jamais de la vie. C'est inconcevable. » Le lendemain matin, c'est assez tendu au réveil. Ça m'a beaucoup remuée. Elle aussi, elle en vient très vite à s'excuser de la parole qu'elle a eue maladroite. Donc on revient dessus et elle me fait comprendre autrement qu'elle n'est pas inquiète, mais qu'elle a envie de savoir que je suis toujours moi, qui ne m'a pas fait changer d'avis, qu'elle est désolée d'avoir réagi de cette façon-là. Je sais que le débat n'est pas refermé pour autant et qu'on y reviendra, mais pour le moment, la dispute, en tout cas, avait pris fin et c'est ce qui comptait.
Le début du séjour au Canada se passe bien. Cependant, j'ai un petit souci administratif et il faut que je retourne en France pour obtenir des données biométriques, chose que je ne peux pas faire au Canada parce que le bureau n'est pas encore ouvert. Au bout d'un mois, je dois donc retourner en France juste pour faire ces données biométriques. Je retourne donc à Paris. Le soir même, je reçois une invitation. Camille me fait parvenir une invitation de la part de ses parents pour venir manger chez eux. Du coup, je suis content de cette invitation, je le prends bien, je me dis que c'est une bonne chose. Le repas se passe très bien, c'est très intéressant, on discute énormément, que ce soit de ma relation avec Camille ou de leur relation avec Camille. À un moment, on en vient à parler politique et j'annonce assez légèrement que j'ai milité au sein du FNJ pendant 3 ans. Et à ce moment-là, je réalise pas vraiment l'ampleur des dégâts, mais je constate que son père s'attendait pas à une telle information et son comportement change instantanément. C'est simple, en fait, il dit plus un mot. Au bout de 5 minutes, il part, il sort de table, il part fumer un cigare, puis il remonte. Il passe à côté de nous, mais il s'arrête pas, il monte à l'étage. Et pendant ce temps-là, sa mère me parle, me fait comprendre qu'il y a un problème. Au début, elle essayait de me faire jurer que si Marion ou Marine se présentaient en 2022, que je ne revoterais plus pour le Front National. Je lui réponds que je ne peux rien affirmer, que je vote pas pour des personnes, mais pour des idées, et que j'ai besoin de savoir quelles personnes défendront ou ne défendront pas mes idées à ce moment-là pour pouvoir prendre une décision, que je peux pas faire des promesses si longtemps à l'avance. Du coup, bon, je sens que ma réponse ne la convainc pas pour autant. C'est pas la réponse qu'elle aurait aimé entendre. Et son père redescend, mais ne s'arrête pas pour autant. Il part se coucher sans dire un mot. Et du coup, sa mère m'explique ce qu'il en est. À ce moment-là, elle m'explique que c'est quelque chose qui est assez rédhibitoire pour lui, que la politique et les gens qui votent Front National ou qui sont proches du Front National, c'est quelque chose qu'il ne supporte pas. Du coup, en disant ça, j'ai dit quelque chose que je n'aurais pas dû dire. Et du coup, la soirée se termine comme ça. Et je retourne chez moi.
Mickaël, il m'appelle dans l'après-midi. Et là, je suis super contente d'avoir son appel, comme à chaque fois. Et il me raconte qu'il a passé la soirée chez mes parents. Mais il me raconte plus en détail ce qui s'est passé. Je suis un peu mêlée à ce moment-là. Je suis un peu mêlée dans mes sentiments parce que je me mets de son côté. Ça a dû être horrible. Il a dû sentir super mal du fait de la réaction de mon papa. Et en même temps, je me dis, bah, il a un peu eu ce qu'il méritait, quoi. Parce qu'il sait qui je suis, il sait ce que je vote, et il sait très bien, du coup, ce que mes parents votent. Et il a eu la réaction extrême vis-à-vis de son vote extrême. Bon, bah, on va faire en sorte que ça se passe, voilà, qu'on en discute. À la suite de ça, j'appelle ma mère parce que je vois bien que Mickaël est super mal et j'ai pas envie que notre relation en pâtisse. Donc je l'appelle pour lui dire, voilà, je sais ce qui s'est passé. C'est quoi ton ressenti à toi, quoi? Je voulais pas qu'elle me dise, à partir du moment où tu seras avec lui, tu mettras plus les pieds dans la maison, ça. J'avais vraiment pas envie, j'avais peur de ça. J'appelle pas mon père parce que sa réaction, je la connaissais. Je savais très bien qu'il allait me dire, écoute, le mec avec qui tu sors, c'est un petit nazi, c'est un raciste, un antisémite, je cautionne pas du tout et c'est un connard, quoi. J'avais pas envie qu'il me dise ça. Je la connaissais, la phrase, donc je savais ce qu'il allait me dire. Moi aussi, je suis dans cette situation à me dire ce qu'il est ou ce qu'il n'est pas. En fait, je me pose des questions tous les jours, même plusieurs fois par jour, quand on a des débats tous les deux ou qu'il y a quelque chose à la télé qui fait qu'on va avoir un débat. Et là, il y a des moments où je me dis « Ah merde, ouais, là, il est raciste, je sais pourquoi, il vote FN. » Et je suis vite rattrapée par... pas ma bienveillance envers lui, mais en fait, je ne veux pas l'essentialiser lui. En fait, c'est une idée. J'essaie de creuser, de graser, et voilà, je veux avoir le fin mot de l'histoire. Et soit, en général, je veux qu'il me le dise. Enfin, il ne me l'a jamais dit vraiment, genre, je suis raciste, parce que c'est un peu le gros mot. Mais c'est drôle, mais j'essaie de savoir si j'ai raison et si c'est, pour moi, une idée raciste, ce qu'il a dit. Donc j'essaye un peu de creuser là-dessus. Et en général, bon, je m'aperçois que j'ai quand même raison, malheureusement. Mais par ailleurs, oui, non, sinon, il est... Il y a des moments où le débat, il est là et où finalement, bah, j'arrive à lui faire entendre raison ou où mon point de vue a beaucoup de... Enfin, du poids, finalement. Et donc là, ouais, là, je me dis, bah, il est pas si raciste que ça, quoi. Ma mère, elle a essayé d'apaiser la situation tout en me disant, voilà, ton père, voilà comment il a réagi et tous les deux, on comprend pas. Mais moi, j'ai une réaction, je t'aime, je sais que t'es heureuse et pour moi, ça, c'est le plus important, mais je comprends pas quand même. Mais c'est pas pour autant que ma réaction, elle est aussi extrême que ton père, donc elle s'est plus focalisée là-dessus. Ça m'a apaisée et du coup, j'ai tout de suite dit à Mika, voilà, tu seras peut-être pas le bienvenu à la maison tout de suite après qu'on rentre à Paris, donc t'as le temps, mais sache que t'es pas le bienvenu, mais t'es pas exclu. La question revient sur la table 8 mois après, parce qu'il doit venir dans quelques jours à la maison passer des vacances, et je vois bien que Mika est très stressé. Il me dit, sur le ton de l'humour, et je sais qu'il y a un fond de vérité, il me dit, t'es sûr que ça va bien se passer avec tes parents, mais si tu veux, je pars de la maison, tu restes seule avec eux pendant leurs vacances. Et je lui dis, mais hors de question, ici, c'est chez nous. C'est chez nous, c'est, on les invite. Donc, non, tu vas pas partir. Ça se passe super bien. Ils passent des super bonnes vacances et moi, je suis super contente de les retrouver. Ça, je suis rassurée. Durant leur séjour au Canada, mes parents décident de faire un road trip dans la région de Québec et je décide de les suivre. Mickaël, du coup, reste à la maison pendant notre séjour. Un soir, on décide d'aller au restaurant et intervient une dispute entre mon père et moi pour une banalité. Moi, je décide de fuir un peu cette dispute, donc je m'en vais. Et vient un moment donné où il me rattrape. Et là, ça repart de plus belle. Ma mère qui essaye de temporiser. Et là, mon papa me sort plein de choses, et notamment par rapport à Mickaël. En me disant « Oui, mais pourquoi tu sors avec lui ?» En gros, tout ce qu'on t'a inculqué, t'as rien compris, quoi. Et là, c'est tout qui ressort. Je me défends et je le défends aussi. Et en lui disant « C'est toi qui as rien compris, en fait. Je suis heureuse, pourquoi tu viens toujours juger ?» Et quand on est rentré, je savais qu'il allait avoir une suite. La suite, elle est arrivée le lendemain où mon papa s'est excusé. J'ai pris ses excuses parce que ma maman était derrière et que j'avais envie que la suite du voyage se déroule correctement. Et ma mère m'a dit, pardonne-lui, quoi. Mais cette histoire, elle est... Elle est restée gravée. Aujourd'hui, donc ça fait 2 ans et demi qu'on est ensemble avec Mickaël. On travaille près de la Côte d'Azur, donc on y vit. On travaille pour un hôtel très luxueux. Notre rythme de vie est très intense. On fait de la coupure, donc on travaille le matin et le soir. De 8h30 à 16h quand on a de la chance, voire 16h30, et on reprend à 17h30, 18h pour finir à 23h30, minuit. Le peu de moments qu'on a, on passe des beaux moments tous les deux. On est complémentaires dans le sens où quand on rentre, il y en a un qui file sous la douche, il y en a un qui prépare à manger, on inverse, c'est un peu on se tape dans la main et on inverse les rôles. Ça peut se passer comme ça. Il y a des moments où on a besoin de parler et on se met tous les deux dans la salle de bain, on discute. Quelquefois, on prend notre douche ensemble. C'est un peu nos moments où on souffle. Notre communication est toujours aussi présente. Un peu moins sur la politique, là, ces derniers temps, parce que moi, je regarde plus trop les infos. Je mets pas trop le nez dehors. Donc, on parle pas trop politique, mais on parle toujours autant dès qu'il n'y a jamais eu. Et là, il n'y a encore jamais de sujet tabou. Voilà, on a une question, on se la dit. Peu importe si on passe du coq à l'âne, on a pas de barrière.
Après notre journée de travail, donc vers 23h30 minuit, en passant à table, on a l'habitude de regarder Quotidien en replay.
C'est une émission d'actualité avec plusieurs chroniqueurs. Et il vient à un moment donné... une petite fille sur le plateau qui se prénomme Lily et qui va parler de sa transidentité.
C'est une interview qui a un peu posé un problème entre nous parce qu'on on la voit pas de la même manière. Je suis assez choqué de voir une petite fille de cet âge qu'on met sur une des principales chaînes de la télévision à une heure de grande audience et qu'on la confronte à des questions d'un journaliste. Et c'est vrai que moi, ça me choque un peu.
Si elle a envie de le faire, elle le fait. Et si ça peut servir, déjà, elle, c'est génial. Et si ça peut servir à d'autres, c'est encore mieux. Je ne suis pas curieuse de savoir comment elle a changé de genre, mais plutôt comment sa maman l'a accompagnée et qu'est-ce qui fait que maintenant elle se sent mieux, et de voir aussi son petit frère jumeau qui est hyper content pour elle alors que bon, il est tout petit, enfin, mais en fait il a vécu au quotidien avec elle et il a vu voilà les cauchemars qu'elle faisait, ses tentatives de suicide, en tout cas elle en parlait fortement, elle était triste, malheureuse, isolée. Et son petit frère, quand elle a dit bah voilà, je veux être une fille, son petit frère, il est super heureux, quoi. Il est super heureux pour elle et il est super heureux de la voir heureuse. Et c'est super touchant. Le sujet est hyper important, mais moi, ce qui me fascine, c'est toute la positivité qui est autour d'eux, en fait.
Je pense que si c'était juste la mère qui était venue parler pour sa fille, pour son fils, ça ne m'aurait pas dérangé. C'est une mère, elle est adulte, elle sait de quoi elle parle. Il n'y a pas de souci qu'elle le fasse, c'est sa cause. C'est son combat, même, j'ai envie de dire, donc ça ne me dérange pas. Mais aujourd'hui, que la petite fille puisse ressentir ça, encore une fois, ça, bon, libre à elle, en fait. Si c'est vrai, je ne vais pas aller la juger, mais les enfants, alors ce n'est pas moi de définir l'âge jusqu'auquel ils doivent être protégés, mais doivent être protégés de pas mal de choses. C'est le rôle des parents. Et justement, le rôle de sa mère, ça aurait été de la protéger de ce genre d'interview qui peut ensuite lui poser du tort. Aujourd'hui, la fille, comme on la nomme, elle a 8 ans. Et 8 ans, c'est pas l'âge où on va au tribunal pour porter plainte, pour mener des grandes batailles juridiques. Et le rôle d'un parent, c'est justement de veiller sur ses enfants et de faire en sorte qu'ils s'épanouissent le mieux possible. Donc moi, j'estime que c'est le combat de la mère, pas de la fille.
Sa maman le dit très bien. Je pense que n'importe quel enfant, à 3, 5 ans, sait si c'est un garçon ou une fille. Donc je vois pas pourquoi ça choquerait si elle se sent pas bien dans son corps. C'est comme ça. Je trouve que le fait qu'elle en parle, en tout cas, ça permet de raviver des débats au sein des familles. Et puis ça permet peut-être de faire monter ça à une échelle politique un peu plus importante, plus haute en tout cas. Donc je trouve ça super.
En général, quand on a ce genre de débat, ça commence, on se rend compte qu'on n'est pas d'accord. Du coup, chacun avance ses arguments. Le ton monte un peu, mais c'est pas d'énervement, c'est juste que chacun essaye de crier plus fort que l'autre, de parler plus fort que l'autre pour faire entendre sa vérité. Et en général, quand on sent qu'il y en a un qui est en train de s'énerver, qui n'arrive pas à se faire comprendre ou autre, en général, l'autre calme la situation, puis on redescend, on passe à autre chose, et éventuellement on change de chaîne et on se calme.
On pourrait être têtu si on ne vivait pas ensemble. Si j'étais en face d'un mec qui votait FN, là, un inconnu à débattre, c'est peut-être pas bien, mais je pense que je m'en ficherais un peu, je serais un peu moins souple, comme je dis. Parce que là, on vit ensemble, et en fait, tout ne tourne pas qu'autour de nos idées politiques, en fait. Donc, ça sert à rien de se pourrir la vie pour parce qu'on n'a pas été d'accord à un moment donné. C'est pas la fin du monde.
J'aimerais avoir des enfants avec Camille. Dans un futur proche, oui, le plus possible. Après, il y a beaucoup de conditions pour ça. C'est des conditions sur lesquelles on s'est mis d'accord. La première, c'est oui, avoir une situation professionnelle stable. La deuxième, c'est avoir une situation financière relativement bonne. Et la troisième, oui, c'est d'avoir un logement fixe à nous. Aujourd'hui, on est dans un logement de fonction et avant, on était dans un logement au Canada. Et puis encore avant, un peu chez moi, un peu chez ses parents. Donc c'est quelque chose qu'on n'a pas encore eu, c'est-à-dire avoir notre appartement à nous en France, de préférence avec nos familles pas trop loin. Donc ça, c'est des raisons qui font que c'est pas possible encore pour le moment. Elles sont pas réunies aujourd'hui. Et puis professionnellement, aujourd'hui, on peut pas au final parce qu'on est en CDD. Et c'est de voir quand est-ce que Camille s'estimera prête en tant que femme, puis en tant que professionnelle aussi, parce que je suis conscient que ce sera un petit coup d'arrêt pour sa carrière aussi. Donc aujourd'hui, la balle est dans son camp.
Moi, je suis pas prête encore à en vouloir une. Je sais pas encore dans quel cadre on pourrait élever un enfant tous les deux, sachant nos divergences politiques. Est-ce que y a beaucoup de questions qui restent en suspens? Par contre, le moment où je me sentirais prête à avoir une famille, c'est sûr que les questions seront beaucoup plus précises. par exemple, sur l'éducation, sur les valeurs qu'il faudra inculquer à l'enfant, sur quel type d'école. Alors peut-être que c'est basique, mais pour moi, je veux que mon enfant il aille en public pour pas être confronté qu'à une classe sociale en particulier, mais qu'il y ait la représentation d'une société en cours de récréation. Ça peut paraître peut-être bête, mais pour moi, ça a son importance. Surtout le fait qu'il vote FN. Je veux qu'il soit confronté à la différence. Moi, j'ai toujours été dans du public face à des gens qui ne me ressemblaient pas. Et c'est ça qui a fait ma richesse. C'est-à-dire que je n'ai pas eu d'a priori.
Bon, j'ai pas peur. Le but, ce ne serait pas de faire de nos enfants des petits soldats écolos ou votant Rassemblement National. Ce serait juste d'avoir des enfants qui arriveraient à s'épanouir, qui seraient bien éduqués et qui se feraient leurs propres opinions par eux-mêmes. Je pense que c'est la meilleure façon d'évoluer, c'est en se forgeant ses opinions dans la vie de tous les jours. Bien sûr, si demain, les idées de Camille déteignent sur nos enfants et qu'on a possibilité d'avoir des mini-Camille à la maison, ça me posera pas de problème pour autant. J'aime Camille comme elle est aujourd'hui et avoir des enfants qui auraient les mêmes convictions et mêmes valeurs qu'elle, je pense que ça me ferait très plaisir.
Je veux pas choisir pour eux. S'ils ont envie plus tard de d'avoir le même vote que leur papa, ok, mais je leur aurais donné la possibilité de voter différemment et d'avoir un cheminement différent. Ce serait compliqué, mais je vais pas renier mes enfants parce qu'ils votent FN. Je me suis beaucoup affirmée dans mon engagement politique, en tout cas dans mes choix. Je me suis affirmée aussi grâce à lui, parce qu'il a fallu que je défende mon point de vue avec des arguments concrets, et ce qui a permis que je me développe et que je farfouille un peu à droite à gauche en me disant est-ce que ça, ce qui est dit là, est-ce que je suis d'accord avec ça, ok, et est-ce que je peux en faire une arme contre son opinion à lui, oui, bon bah ok, je me l'approprie, puis plus tard, si on a une discussion, je pourrais lui ressortir, il m'a construite en quelque sorte, mais en fait, je me suis pas construite parce qu'il votait ça, j'étais déjà contre à la base, mais je me suis complètement affirmée. Et j'ai cherché des armes à droite à gauche pour combattre ce qu'il vote.
J'ai l'impression que vos débats restent vraiment dans les idées, mais que ça ne se concrétise pas dans les faits. Est-ce que finalement, ce n'est pas pour ça que vous arrivez à être heureux ?
C'est sûr qu'il y a une réalité derrière, c'est que oui, je ne me vois pas aller à un congrès du Front National, enfin du Rassemblement National aujourd'hui, ou un débat du Rassemblement National, parce que je sais que ça ne lui plairait pas et que ça la blesserait.
Il déposait des tracts par rapport au FNJ, donc là, ce n'était pas qu'un discours. Il essayait quand même de convaincre des gens. Là, pour le moment, il le fait plus, il n'est plus dans le parti, donc tant mieux. Mais je ne sais pas comment ça peut évoluer. Pour le moment, non. C'est sûr que ça reste juste des idées. C'est ça qui est aussi rassurant. C'est vrai qu'on n'a pas eu de grosses disputes plus pratiques. C'est vrai que quand on se dispute, il y a toujours un moment où je me dis, bon, est-ce que c'est pas un peu la goutte de plus Mais on verra. Enfin, je ne suis pas, je suis pas devin. Donc, je ne vais pas m'interdire de vivre avec lui pour une hypothétique un conflit de ce genre-là. Je croise les doigts que ça n'arrive pas. Et je croise les doigts pour que plus on avance, plus on arrive à discuter encore et encore et qu'on arrive à agrandir cette petite interface. C'est, après, si un jour où ça ne passera pas, c'est la vie. Je vais pas, mais je ne vais pas m'interdire de vivre pour ça. Aujourd'hui, je suis arrivée au bout d'un rythme qui était qui est très intense et j'en ai pas envie. Mais en tout cas, ce cycle, je le sens fini et je pense qu'il y a un nouveau chapitre qui va arriver. Je sais pas quand, mais en tout cas, je sais qu'il sera avec Mickaël.
Aujourd'hui, Camille est toujours cette force tranquille, mais elle parle plus. Son choix de se mettre en couple avec Mickaël, je n'arrive toujours pas à le comprendre. Mais poser des mots et des émotions sur leur histoire a nourri ma réflexion, même si je n'ai pas de point final à mettre à tout ça. Après 2 ans et demi à y réfléchir, Camille reste mon amie, et cette relation amoureuse avec Mickaël, c'est son histoire, pas la mienne. J'avoue quand même que systématiquement, lorsqu'on se retrouve, je lui pose des questions, juste pour être certaine qu'elle ne s'oublie pas dans la vision politique de Mickaël. Mais plus les années avancent, plus son positionnement politique à elle est assuré. Et ça, ça me rassure. Je me demande seulement comment ce sera le jour où leur différence de valeurs se confrontera à une réalité qui les touchera vraiment, à une réalité qui sera certainement violente et dont ils ont aujourd'hui le luxe d'être épargnés. Une réalité qui, à ce jour, n'a de matérialité que leurs idées. Je suis Maud Benakcha et vous venez d'écouter un épisode de Passage que j'ai tourné et monté sous la responsabilité éditoriale de Maureen Wilson. Maureen qui était aussi à l'édition et à la coordination. Léa Fosset était à la réalisation. La musique a été composée par Mélodie Loret et Antoine Grognard et c'est Jean-Baptiste Aubonnet qui s'est occupé du mixage. Cet épisode est également rendu possible grâce à Charlotte Pudlowski, directrice éditoriale, Mélissa Bounois, directrice des productions, et Marion Girard, responsable de production. Le générique de Passage a été composé par November Ultra. Passage est une production Louis Média, que vous pouvez retrouver sur toutes vos applications de podcast. N'hésitez pas à vous y abonner, à mettre des commentaires, des étoiles, et surtout, à en parler autour de vous. Si vous souhaitez soutenir Louis, n'hésitez pas à vous abonner au club à l'adresse louismedia.com/club. À très vite.